Oui, alors, la barge russe, qui est tous les jours, avec Johnny Chirbeck, qui parle de philosophie, d'actualité, en soi, assez intéressant, n'est-ce pas? Et par quinzaine, donc, le mercredi soir, il y a The Russian Fortune, à 21h, 21h30 même, avec Helmut Schwartz. C'est essentiellement musical, n'est-ce pas? Et il fait quelques à-propos avec la barge russe, Johnny Chirbeck. C'est deux compères travaillent ensemble. Ils sont l'un pour l'autre et l'autre pour un, n'est-ce pas? Leurs émotions peuvent aller de pair, mais très, très rarement, je dirais. L'une peut aller sans l'autre, et l'autre aller sans l'autre.
Barge russe 1023 sur la nécessité de la naissance de la guerre. Donc là, c'est ambigu, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce délire de l'équilibre cosmique, comme je dis fréquemment, on est régulièrement barge russe. Mais je m'appuie là-dessus sur un texte qui a été écrit par Anne Merker, qui a été publié dans la revue Critique sur Nietzsche, celui-ci, Revue Générale des Publications Françaises et Étrangères. Le titre est « La guerre, le plus grand agon, réflexion sur la guerre chez Platon et Nietzsche ». J'y vais. Pareil, je vais vous dire des petits trucs, des bribes. Hein. Sans la guerre, la cité de la République, donc de Platon, n'aurait pas pris la forme qu'on lui connaît. Elle naît d'un noyau centré sur la satisfaction des besoins, la guerre, puis croît sous la pression intime de la pléonexie débordant les limites du nécessaire et atteint enfin sa maturité avec l'apparition de la nécessité guerrière. La perspective de la guerre est la cause directe de la structure plurielle de la cité. Donc, il faut aussi, c'était d'autres, à l'époque où ça a été écrit, ce texte était publié en 2023, en juillet-août, je crois, juin-juillet 2023, écrit sûrement avant, mais en tout cas, à l'époque de Platon, la guerre était omniprésente. Et c'est ce qui est dit dans ce petit texte. Relire Nietzsche aujourd'hui permet d'apprécier à leur juste valeur les déplorations sur la violence dans nos sociétés européennes du XXIe siècle. Le réalisme de Thucydide, donc c'était un historien grec. Un truc comme ça, porte Nietzsche à tirer les enseignements de ce maître violent qu'est le Potémos, dont on reçoit d'amères vérités sur la nature des êtres humains. Par Nietzsche, c'est clair. Moi, je trouve, j'adore le lire. On reçoit des vérités sur la nature des êtres humains, qui sera sans doute toujours la même. La nature humaine fait la guerre à toute supériorité. On n'eût pas préféré la vengeance aux règles sacrées, le profit au respect de la justice, si la jalousie n'avait pas possédé une force pour nuire. Et c'est écrit entre guillemets. Je le relis, parce que moi j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre. On n'eût pas préféré la vengeance aux règles sacrées. On préfère se venger que de suivre des règles sacrées. Le profit au respect de la justice, on n'aurait pas préféré le profit à la justice. Si la jalousie n'avait pas possédé une force pour nuire. Parce que ce qui entraîne la jalousie, c'est le mec qui est plus riche que toi. Donc tu veux être aussi riche que lui. Donc tu vas passer par des chemins fourbes. Enfin, tu vois, forcément. Tu vas peut-être, en toute honnêteté, le dépasser au niveau du profit. Mais bon, si tu veux aller vite, généralement, c'est par les mauvais chemins que tu, que tu passes, quoi. Pas le truc injuste, enfin, les trucs qui sont pas, qui n'appartiennent pas à la justice, quoi. Et autrement, tu peux préférer la vengeance aux règles sacrées. Tu préfères te venger que de passer par le. Bah oui, c'est comme ça. Donc, au lieu de se dire c'est comme ça, si c'est arrivé, c'est parce que ça doit arriver. Non, si tu te dis au contraire, ah ouais, il m'a fait ça. Ah ben bah, attends, il m'a cassé la dent. Ah bah moi je vais lui casser la gueule. Ouais, tu vois, c'est un peu, c'est ça qui est dit. Alors je sais pas, si je crois que c'était, je sais pas, c'était pas Nietzsche qui disait ça. Je pense plutôt que c'était Thucydide. C'est pas très clair en tout cas. L'homme grec est jaloux, est-il écrit, dira Nietzsche à la suite non seulement d'Hésiode, mais encore de Thucydide, dont il s'inspire la partie dans la joute d'Homère et dans l'État grec. Alors la joute d'Homère, c'est dans la naissance de la tragédie, je crois. Alors, nous voyons dans la sanction d'un tel droit que le grec considérait comme une sérieuse nécessité de laisser libre cours à sa haine. En de tels moments, son sentiment comprimé a enflé, s'allégeait. Le tigre bondissait, une cruauté voluptueuse brillait dans son œil effroyable. Et pourtant, en dépit de ce que dit Nietzsche ici, les Hélènes, donc les Grecs, voyaient là, justement, non pas tant l'abîme de la haine, sans fond et sans limite, comme tout abîme, mais au contraire, une procédure délimitée, pour ne pas dire mesurée et philanthropique, dans le traitement des vaincus. C'est-à-dire que c'était normal, quoi. Tu avais vaincu, il fallait que tu montres ta puissance. C'est ça qui est dit. Abattre les citoyens en âge de porter les armes, ça c'était normal. Tu avais vaincu, donc il fallait tuer tous les mecs qui avaient entre 15 et 50 ans. Réduire en esclavage femmes et enfants, donc bon, on voit ce que c'est l'esclavage de femmes, ce qu'ils entendent par là. Femmes et enfants, accessoirement raser la ville, bon, ça c'était normal. C'était non seulement une pratique de droit tacite, comme le dit Nietzsche, mais encore un acte d'humanité non exempte de pitié et d'égard pour les faibles. Non, t'as perdu, bah regarde-moi ce que je vais faire avec ta femme, et puis toi je te tue. Tu vois ? Bon, je te tue avant ou je te tue après, tu regardes ou tu regardes pas, mais. Tu vois, ça c'est normal, parce que j'ai gagné, c'est ce qui est dit selon Nietzsche. L'humanité de cette procédure, enfin les Grecs surtout, l'humanité de cette procédure réglée se révèle par contraste avec la guerre civile dont Corcyre fut l'un des premiers théâtres avant que le mal n'atteigne toutes les cités. Bon, Corcyre, c'est une ville grecque. Alors Nietzsche, plus que tout autre, aura fait droit à cet aspect difficile de l'Antiquité classique. Classique, entre guillemets, contient déjà un jugement esthétique, dit Nietzsche, et même, dirons-nous, un jugement de valeur. Nietzsche aura fait éclater ce qui pouvait y avoir jadis de lénifiant dans la réception de ce classique, en décelant le fond cruel et barbare de la civilisation et le caractère créateur du conflit. Le caractère créateur du conflit, qui est l'humanité, qui est l'humain. Et il insiste bien sur cet extrémisme de « on a gagné, donc on détruit tout, on tue tout le monde et on fait ce qu'on veut avec les gens. Ce sont nos esclaves. » Tant une perspective d'anthropologie historique dégagée du tropisme schopenhauerien de la naissance de la tragédie, ce n'est pas malgré la violence et la cruauté que l'humanité de la civilisation se développe, selon Nietzsche. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas malgré la violence et la cruauté de l'humanité, de la civilisation, que se développe, selon Nietzsche. Le prologue composé soigneusement est l'ouverture de la joute d'Homère, touche au cœur du réel de l'Antiquité. Et alors là, donc là je cite Nietzsche, « L'être humain, en ses forces les plus hautes et les plus nobles, est tout entier nature. » Nature, et porte en lui le double caractère inquiétant de celle-ci. Ses capacités effroyables et valant comme inhumaines sont peut-être même le sol fécond à partir duquel seule toute l'humanité peut croire sous forme d'émotions, actions et œuvres. Et là, je vais vous dire un autre passage que j'ai pris moi-même. Ouais, j'ai choisi. Dans la naissance de la tragédie, donc de Nietzsche toujours, le grec apollinien, donc pour forcer sur cette dualité qui est entre chacun des humains par rapport à Apollon et Dionysos dans la mythe grecque, les dieux grecs, quoi. Le grec apollinien qualifiait également de titanesque et de barbare l'effet produit par le dionysisme, sans pouvoir toutefois se dissimuler qu'il était profondément apparenté à ces titans foudroyés et à ces héros. Donc les titans, c'était avant les Olympiens, avant Zeus, quoi. Bien plus, il sentait que son existence, toute de beauté et de mesure, reposait sur un mystérieux fondement de douleur et de connaissance que ce dionysisme lui révélait à son tour. Et voici qu'Apollon ne pouvait vivre sans Dionysos. Donc Apollon, plutôt la beauté, et Dionysos, l'ivresse, quoi, en gros. Et donc ces deux se complètent. Ces deux sont deux phases de l'être humain. D'où cette vérité dans l'histoire, quoi. L'ouverture de la joute d'Homère part à l'inverse d'une dualité prétendue, celle de la nature et de l'humanité, pour ne pas dire de la cruauté et de la civilisation. Donc la dualité aussi encore. En chacun de nous, il y a ça. On a du civisme et on est cruel. Et il est reconduit à un fond unique, la nature elle-même sans scission, présentant certes un double caractère, mais bien un caractère double, plutôt que deux pulsions contraires en coaction, tant conflictuelle que créatrice. À partir du moment où tu admets ça, les psychiatres et les psychologues se délectent justement quand la conscience n'a... Quand ce duel intérieur, ce qui amène, tu peux amener à une schizophrénie, c'est pour ça que c'est la prise de conscience de ces deux faces de notre être qui échappe à la conscience et qui reste inconsciente et dépasse même l'inconscience. Enfin, c'est l'inconscient qui agit dans la conscience. Dans l'objectivité, dans le maintenant, quoi, dans le matériel. Now, then, your folks been singing this song. Don't get mad, I don't mean no harm. I want to play with you. I want to play with you. I want to play with your pool, I mean your little pool dog. Yeah, that little pool got a long cherry tail. Well, I tried to buy my buddy, wasn't for sale. Can I play with your pool? Can I play with your pool? I want to play with your pool, I mean your little pool dog. I had my hand, I was looking for a woman, didn't have no man. I want to play with your pool, I want to play with your pool, I want to play with your pool, I mean a little pool. Well, one time over, this is what she said. Can I play with the fool? Can I play with the fool? Can I play with the fool of me, little fool? Now, love you, woman, what you trying to do? Trying to love my brother and love me too. Wanna play? On a pu écouter Let Me Play With You Poodle par Lightning Hopkins. Dionysos et Apollon. L'Apollinien et le Dionysiaque, ces deux pulsions si différentes qui se livrent un combat mais non, en fait, qui sont là, et peuvent même s'exprimer dans les mondes artistiques séparés du rêve et de l'ivresse. La non-séparation de la nature cruelle et de l'humanité civilisée. Car Nietzsche envisage, avec le passage de la guerre, à la joute, ce qu'il nommera plus tard spiritualisation, notion qu'il n'utilise pas encore dans la joute d'Homère, mais qui en fait comprendre l'essentiel, à savoir la non-séparation de la nature cruelle et de l'humanité civilisée. Ça va ensemble, ça. On ne peut pas séparer. Voilà donc la guerre, c'est-à-dire quelque chose comme le tigre, une pulsion plurielle d'hostilité, de cruauté, de destruction carnassière, placée à la racine de la culture grecque tout aussi bien qu'en son cœur. Une fois spiritualisé, Nietzsche retrouve ici Héraclite. Polémos est le père de tous, le roi de tous. Il a désigné les uns comme Dieu, les autres comme des êtres humains. Il a fait les uns esclaves, les autres libres. Car l'imprégnation de l'esprit guerrier dans la culture antique est phénoménale, même dans la démocratique d'Athènes, qui a en réalité adopté et adapté les valeurs de l'aristocratie, et même chez les philosophes socratiques, que Nietzsche considère pourtant comme décadents. Oh ouais. Ouais. Ride the Rhythm par l'album de Cool and the Gang, un album de Cool and the Gang, celui où il y a Jungle Boogie qui a été rendu très 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 célèbre par Pulp Fiction with Quentin Tarantino, you know, yes, with John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, you know, and etc. etc. Voilà. Donc maintenant, pour continuer tout ça, quand je vous racontais que par rapport à Dionysos et Apollon, qu'il y avait cette dualité entre chacun des hommes qu'il fallait vivre avec plutôt que de les opposer. Ils se font pas la guerre, ils vivent ensemble. Et c'est nous qui en faisons des états de guerre en nous-mêmes. Mais en réalité, il faut pas. Il faut vivre avec. Il faut accepter les ambivalences qui résident en nous-mêmes. Et pour ça, pour accentuer, pour savoir justement de quel côté aller, si on doit aller du côté d'Apollon ou du côté de Dionysos, plutôt du côté de l'harmonie ou du chaos, eh bien, j'ai trouvé un petit passage, toujours de Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses. Je suis tout le temps dans le tome 1. J'ai commencé, il y a quelques barges russes, par le tome 3. Là, je suis rendu au tome 1, toujours. J'ai fait plusieurs barges, plusieurs chroniques Wiz qui m'ont aidé. À chaque fois, j'en faisais part, que c'était de Mircea Eliade. Et là, donc, c'est le système des signes. Les signes, justement, qui peuvent nous engager à aller plutôt vers un côté que de l'autre. Un choix à prendre plutôt que l'autre. Donc, j'y vais. Toutes les techniques divinatoires poursuivaient la découverte des signes qu'on décryptait selon certaines règles traditionnelles. Le monde se dévoilait donc pourvu de structures et gouverné par des lois. En déchiffrant les signes, on arrivait à connaître l'avenir. Autrement, dit-on... Alors on a, là, je suis dans les religions mésopotamiennes, le chapitre mésopotamien. Mais ça n'a pas changé. Eux, ils avaient tout un système basé là-dessus. Nous, aujourd'hui, c'est complètement passé. Ils étaient vraiment avec le côté invisible. Ils savaient qu'il existait. Aujourd'hui, on ne sait même plus qu'il existe, ce côté invisible. Donc, il faut bien se remettre dans l'époque et même remettre cette époque aujourd'hui, quoi. Parce que vu que ça existe toujours, on serait conscient que ça existerait toujours. Il y aurait, je pense, toujours moins de problèmes qu'il peut en exister aujourd'hui. Il y a cette expression très connue, « Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Ah ben voilà, parce que le bon procès a emmené la guerre, la guerre entre les hommes existait avant, mais a décuplé la guerre. Oui, mais tout est lié, quoi. Nietzsche a beaucoup, beaucoup pris aussi dans la religion mésopotamienne. Les premières religions, Zarathoustra, on est un parfait exemple. C'est Zoroastre, c'était avant, plusieurs centaines milliers d'années avant Jésus-Christ. En déchiffrant les signes, on arrivait à connaître l'avenir. Autrement dit, on maîtrisait le temps, car on prévoyait, la clairvoyance, on prévoyait des événements qui allaient se réaliser seulement après une certaine durée temporelle. L'attention accordée aux signes aboutit à des découvertes d'une réelle valeur scientifique. Donc ça n'a pas la même valeur, ce mot, qu'aujourd'hui, scientifique. Hein. Certaines de ces découvertes furent reprises et parfaites plus tard par les Grecs. Mais la science, donc les Grecs, hein, c'était 300-400 avant Jésus-Christ, hein. Mais la science babylonienne resta une science traditionnelle en ce sens que la connaissance scientifique garda une structure totalitaire, c'est-à-dire impliquant des présuppositions cosmologiques, éthiques et existentielles. Nous avons ici, c'est moi qui ai noté, un système élaboré des signes. Il est significatif que les découvertes babyloniennes appelées à devenir populaires impliquent plus ou moins directement les correspondances ciel-terre ou macrocosme-microcosme. Parce qu'il y a tout un truc aussi avant, là, entre la relation entre la terre et le ciel. Et les temples étaient bâtis à des endroits, ça j'en avais déjà parlé il y a quelque temps, des endroits qui sont géographiquement... c'est ici qu'il faut construire, que les dieux sont, tu vois.
C'est sur Jet FM que le soleil se lève avec ses auditeurs. Thank you. go on